plutôt que juste par les rentrées. Et à la limite, qu'est-ce qui nous empêche de faire pulser tous les coins? Rien. Rien. Mais pas nécessairement avec ça, et peut-être quand même avec ça, tu vois, voilà. Parce que ça, c'était pour faire pulser, tu te souviens, c'était suppression émotionnelle, et donc ça, c'est équivaut à suppression émotionnelle. Donc, c'est plus les points émotionnels qu'on fait pulser avec le 20-24. Les autres, normalement pas, mais vous pouvez faire pulser les autres. Plutôt que de bêtement les rentrer, vous pouvez les rentrer et attendre qu'ils pulsent et puis les rentrer. Ça va? Ça va?
Bonjour.
Bonjour.
Oui. Tout va bien?
J'ai perdu mon écharpe.
Allez-y. Va vite la chercher, comment elle s'appelle ton écharpe?
Alors, elle n'a pas de nom.
C'est pour ça qu'elle est perdue.
Faudra lui donner un nom. C'est le bonheur, alors. Ouais. Autre chose? On était juste aux questions. D'accord. Il y a juste une chose que j'ai dite. Oui. C'est, tu vas le faire pour moi, Joël aussi.
Oui.
Une chose que j'ai dite, en plus de répondre aux questions, c'est que, on a revu juste la procédure.
D'accord.
C'est que, si tu fais cortex, tu peux, plus que d'aller voir juste les zones, mm-hmm. si tu veux aller voir leur cortex préfrontal, ou le cortex occipital, la vision, ou le cortex auditif, tu peux aussi le faire. Le faire soit là, soit en scannant sur une planche, et puis en allant chez la personne spécifiquement à ce point-là.
D'accord.
Ça te permet d'élargir cette notion. Ça ne fait pas partie du cours, mais ça élargit.
Ok, merci.
Bien.
Moi, je suis un peu perdue dans les...
Alors, comme ça, vertical, c'est... Donc, je mets le pouce toujours là. À la verticale, c'est moteur. Si je fais un angle un peu vers l'arrière, de 10 degrés, c'est... somatosensoriel. Si je fais un angle de 10 degrés vers l'avant, c'est prémoteur. Mais si je vais un tout petit peu plus vers l'avant et au-dessus, c'est moteur supplémentaire. Ça va? Donc cette zone... En fait, oui, mais ça c'est dans toute cette zone prémotrice, motrice supplémentaire, c'est dans ce coin-là, là-haut, tu vois? Et donc quand je suis dans le prémoteur, je peux, mon index, là, en laissant mon pouce au même endroit, faire juste comme ça, quoi. Tu vois? Si je veux différencier entre prémoteur et moteur supplémentaire. Ça va? Et l'autre chose aussi que je peux faire, c'est venir jouer avec mes quatre doigts pour toucher ces quatre zones au niveau de la coordination. Je ne sais pas dans quel ordre c'est, je sais que tout en haut c'est la main. Ben, il y a la main, la nuque, les yeux et...
Et la formation
et la nuque.
Ah non.
Et la nuque.
Ah non, bah, je n'ai pas du tout le montrer.
Je crois. Ça va?
Oui, merci.
D'autres questions?
Merci beaucoup.
C'est beaucoup plus clair maintenant?
Oui.
Alors, on va... Continuez maintenant par... laissez-moi, je vais voir. Ah ben oui, c'est bien. Ça ne m'a pas vu. Ok. Je vais reprendre... Et donc, on a commencé à voir au début, on a vu les ganglions de la base ici au centre, on a vu ici les marqués corps mammilaires, c'est une des choses de l'hypothalamus, on a vu l'hypothalamus, puis on a vu l'hippocampe ici, l'amygdale. Donc tout ce qu'on a vu, en gros, c'est plutôt là au centre. On n'a pas encore vu le thalamus antérieur. qu'on va voir maintenant dans la matinée. On n'a pas encore vu l'air septal qui est ici, mais ce qu'on va aborder maintenant surtout, et bien je vais voir d'autres choses encore, c'est toute cette air-ci qui constitue le vrai cortex limbique. Ça va ? On a déjà vu ici le gyrus para-hippocampique. À l'époque où Richard a développé son cours, le gyrus para-hippocampique couvrait tout ça. Ces deux cortex n'étaient pas encore identifiés comme étant séparés. Cortex péri- et entorhinal. C'était la formation hippocampique et ça recouvrait tout ce machin-là. Ça va ? Donc vous n'allez pas trouver de point spécifique pour ces deux-là, parce qu'ils n'existaient pas. Ils sont dans le prolongement du gyrus para-hippocampique. Donc ça, c'est la première chose qu'on a déjà vue au niveau du cortex. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir tout le reste du cortex. On va voir ici le cortex singulaire antérieur, le cortex orbitofrontal, le cortex sous-caleux. Donc, on va couvrir toutes ces zones-là. Donc, je vais prendre mon bouquin. Je suis à la page 65 de votre bouquin et tout ce que je vais dire, en fait, est noté.
Le cortex veut dire écorce et gyrus.
Gyrus, c'est une...
circonvolution.
Une circonvolution, si tu veux. Mais je... Bien.
Et là, on est toujours dans...
Dans le limbique. Tout à fait. Dans le système limbique, vous avez, dans le cortex limbique, vous avez deux types d'actions du cortex. Vous avez un cortex limbique qui est juste comme une sorte de relais. De relais entre les noyaux limbiques sous-corticaux et le cortex ici. Est-ce que je peux effacer la... Parce qu'alors je vous le mets au tableau, comme ça vous pouvez le noter juste. On va voir si avec du PQ ça marche aussi bien qu'avec ces petites lingettes super chères. Parce que les lingettes super chères, elles sont presque plus là. Hein. À force de l'air. Et c'est pas humide. Je sais pas si ça marche aussi bien. On va voir. Ah, 25 minutes. Mais ce sera dans les glandes. Ça marche pas ?
C'est pas mal.
Oui, mais c'est quand même pas génial. Enfin bon, c'est mieux que rien. Donc, on a le cortex cérébral qu'on appelle le néocortex. Et là, on peut dire que c'est quelque part conscient. Puis, on a, on va dire, les noyaux sous-corticaux limbiques. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les noyaux sous-corticaux limbiques, je vais vous la mettre. Si on a vu l'hippocampe, on a vu les ganglions de la base, on a vu l'amygdale, l'hypothalamus, on ne le met pas parce que quelque part l'hypothalamus est encore plus en dessous. L'hypothalamus, il est souvent contrôlé par l'amygdale, entre autres, hein, mais qui lui dit voilà comment tu dois réagir. Ça va ? Donc, Richard l'a mis dans le système limbique, mais tout le monde ne le met pas là, l'hypothalamus. Il faut juste le savoir. Ça va ? Donc, voilà ce qu'on a déjà vu. Quoi ?
Donc, du coup, il y a un cerveau
non, non, non. Ce n'est pas un noyau limbique pour les autres. Pour les autres, le système limbique, c'est plus qui touche à l'émotion et au comportement. Ce qui n'est pas le cas du... C'est une conséquence des noyaux limbiques.
Il met la chose en place physiologiquement.
Voilà, physiologiquement. Bon. Mais il est quand même au niveau du troisième ventricule. Le troisième ventricule, c'est plus le diencéphale. Donc, il est dans le bas du diencéphale. Bien. OK. Entre les deux, vous avez le cortex limbique. Et le cortex limbique, il y a certains cortex limbiques qui vont servir de relais. Et ça, ce sont des choses qu'on n'a pas encore vues. Vous avez l'incus. Je vous montre tout de suite où il est, je ne l'ai pas encore montré. Un relais que vous connaissez déjà, le gyrus para-hippocampique. Celui-là, vous savez bien que c'est le relais entre ça et l'hippocampe, on l'a vu. Oui. Et puis le troisième, c'est le gyrus cingulaire. Ça, ce sont des relais entre les noyaux et le cortex. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ça va comme ça et ça va comme ça. D'accord? Donc vous avez, si on regarde le cerveau, vous avez les noyaux, vous avez le cortex limbique et le cortex cérébral. Et ces trois parties du cortex limbique font le relais entre les deux. Ça va? Simple. Et si vous regardez où ils sont situés, vous avez le gyrus para-hippocampique, le gyrus cingulaire et l'incus, il n'est pas mis là-dessus. Vous vous souvenez de l'incus? Il est tout au bout, il n'est pas mis. Je vais vous le trouver ailleurs. Que vous le voyez bien. Peut-être c'est mon autre schéma. Voilà, ici. On le voit ici. Voilà. Donc, vous avez le gyrus para-hippocampique et tout au bout, vous avez l'incus. Ça va? Donc, en fait, les relais, c'est incus, gyrus para-hippocampique. Et vous voyez qu'ici, ce gyrus para-hippocampique, ben, on ne met pas l'entorhinal, le péririnal. On dit, voilà, ça, c'est le gyrus para-hippocampique. Ça va? Donc, dans vos formatages, ben, péri et entorhinal, ben, vous allez les considérer comme para-hippocampique. Vous n'avez pas le choix. Ça va? Donc, incus, gyrus para-hippocampique et gyrus cingulaire, tout ça, ce sont des voies de relais entre les noyaux et le cortex. D'accord? Maintenant, les autres parties du cortex qui sont situées plus en avant, c'est-à-dire le gyrus qu'on appelle le cingulaire antérieur, le gyrus sous-caleux, sous le corps caleux, et le gyrus orbitofrontal, ici, cette partie-là va non seulement jouer le rôle de relais, donc je vous l'ai noté, c'est le cingulaire antérieur, le sous-caleux et le cortex orbitofrontal, ça veut dire sous l'orbite à l'avant. Eux vont jouer un rôle plus important, c'est le rôle de modulation des émotions primaires. Primaires et contrôle de l'attention. Et le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez ici, je vais marquer en noir comme tout à l'heure, le système limbique, le reste du système limbique, donc surtout les noyaux, l'amygdale, etc. Donc c'est la même chose, hein, ici. Et eux, ils vont vraiment, quelque part, servir de, je vais vous donner un exemple tout de suite, de contrôle du système limbique. Par exemple, vous avez là-dedans le, des cortex limbiques qui contrôlent l'amygdale et qui font que l'amygdale ne pète pas un plomb à tout casser, je ne rentre pas dans une rage furieuse à tout casser. Ça va ? Ça, c'est le cortex limbique qui contrôle ces noyaux. C'est le contrôle du comportement.
Ah, c'est de l'attitude, ça.
Quoi ?
Contrôle de l'attitude.
De l'attention et du comportement. Et du... Comme ça, vous avez tout. Ça va ? Et donc, vous voyez que dans le cortex limbique, vous avez... Vous en avez qui servent juste de relais et d'autres qui ont un rôle de modération, quoi, de modulation, de contrôle. Modulation des émotions, contrôle des émotions et du comportement. Ça va ?
Là, malgré que ce soit des relais, c'est quand même la matière crise.
Ah, c'est partout la matière crise. Partout, partout. C'est
pas seulement...
Non, c'est partout comme ça.
Donc Dominique, t'as fait une flèche seulement descendante, ça c'est juste descendant, puisque c'est le contrôle.
Laisse-moi vérifier que je sois sûre. C'est plutôt dans ce sens-là, parce qu'en fait, et c'est logique, c'est mon conscient qui décide d'aller contrôler ma rage, socialement par exemple. On va voir tout ça, tu vois. Donc c'est plus dans ce sens-là. Mais maintenant, je me dis que... Je voudrais juste voir un truc. On n'a pas vu le symptôme. C'est pas grave, je vais le faire dans le... Bien. Alors, on va maintenant commencer. Le premier dont je vais vous parler, c'est ce cortex gyrus orbito-frontal. Et c'est-à-dire qu'il est juste, l'œil est ici, il est juste au-dessus de l'œil, vers l'avant. Ça va ? Cortex orbito-frontal. Ça va pour ça ? Et dans votre livre, c'est à la page... 71. Alors, si vous devez retenir juste un truc du cortex orbitofrontal, il est là. Hein, donc, il module, il contrôle le comportement, les attitudes, etc. C'est là que vous avez le sens de ce qui ne colle pas. Je vous explique. Il va détecter les désaccords entre ce à quoi je m'attends et ce qui se passe. Il vérifie la réalité. Admettons que je rentre dans cette pièce ce matin. Je rentre dans la pièce et moi je suis en pleine forme, plein d'enthousiasme et je m'attends à ce que vous soyez là, content de me voir et tout. Et puis il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à moi dont je n'ai pas conscience. Je suis au courant de rien. Et très vite, je vais le sentir, le détecter. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce à quoi je m'attends. Ou parfois, vous rencontrez une personne qui est une amie et tout d'un coup, son attitude a changé. C'est le cortex orbitofrontal.
Qui le détecte.
Il y a quelque chose. Il y a la réalité. Et il y a ce à quoi je m'attends. Et ça ne colle pas. Ça va ? Oh. Est-ce qu'il est ? Je vais voir si ce n'est pas un de mes gosses, parce qu'avec ces trucs d'examen, Patrick me dit non. Ok. Alors, il joue entre ça et ça. Donc, il va jouer le rôle de modulation par rapport, entre autres, à l'amygdale. Et si le cortex orbitofrontal est lésé, ben, la personne va se lâcher, être désinhibée quelque part.
carrément dans la psychologie.
Oui, c'est vraiment le système limbique, c'est les émotions, mais c'est aussi... Admettons que j'arrive ici, où je rencontre quelqu'un, et je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Mon comportement va changer vis-à-vis de cette personne. Claire. Ça va? Je vais être plus sur mes gardes, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe ici? Etc. Ça va? Vous avez parfois ça. Vous avez blessé quelqu'un, vous ne le savez même pas, vous n'en avez pas conscience, mais l'autre l'a pris en pleine gueule. Et vous, pour vous, cette personne, elle est toujours pareille, du pareil aux mains. Et vous sentez bien qu'elle... Mais bon, voilà, quoi. Et donc, c'est comme si, aussi... c'est aussi actif dans le cas où je m'attends à avoir une récompense et je ne l'ai pas. Mais récompense pouvait être un sourire, un câlin ou un cadeau. Hein. C'est vraiment ça, quoi.
Et est-ce qu'il peut envoyer des mauvais signaux? Du genre, tiens, il y a un truc qui ne va pas, quoi, et en fait, pas du tout.
Ah, s'il est lésé, s'il est perturbé, éventuellement. Mais je vais vous donner un petit peu ce qui se passe quand il est lésé. Ils ont un truc en allemand, mais je n'ai pas le mot en français. En allemand, c'est Witzelsucht. Et ce que ça veut dire, c'est cette personne qui a une urgence, qui est poussée à raconter des blagues tout à fait inappropriées, à faire des remarques. Et à peut-être même raconter des choses fausses, des faux souvenirs, par exemple. Parce que le cortex orbitofrontal, ça je ne vous ai pas encore dit, est impliqué dans la récupération du vrai souvenir. Donc, par rapport à la mémoire, il pourrait entrer en jeu aussi. Mais donc, cette personne-là, elle est devant son chef au bureau et elle va lui raconter une blague salace. Alors, pourquoi? Parce qu'elle ne détecte pas que ça ne se fait pas. Donc, il y a cette détection de ce qui ne va pas, de ce qui ne se fait pas.
Ben, j'ai rencontré une personne comme ça un jour dans un cadre de bureau et c'est complètement sidérant.
Ah oui, c'est sidérant.
Mais c'était une personne extrêmement compétente et tout le monde savait et on apprenait comme ça.
Ouais.
Mais par exemple, en pleine réunion de grands directeurs, elle se levait et disait « Bon, je vais me secouer la salade et je reviens. » Voilà.
C'est ça, exactement ça. Ça, c'est le cortex orbitofrontal.
La première fois, on était scotchés. À la pause, on nous a expliqué, elles se rendaient compte à la réaction des autres que quelque chose n'allait pas, mais elles n'arrivaient pas du tout à...
Elles ne sait pas.
Non.
Et c'est une... La personne ne va pas réaliser qu'il y a des contradictions entre les choses. Elle va vivre avec plein de contradictions. Par exemple, au niveau du temps, aussi, ça peut se manifester. Le timing, il n'existe quoi?
Le timing adéquat.
Ça n'existe pas.
Non.
Ça n'existe pas. La réalité intérieure, ce que je crois comme réalité intérieure, devient la réalité extérieure. Donc, il y a plein de choses qui ne collent plus, quoi. Je vois l'extérieur comme je veux le voir. Et donc, si pour moi, c'est la pause, le temps d'aller secouer mes salades, mais je vais secouer mes salades, quoi.
Non, mais justement, c'est pas la pause.
Et mais
c'est
non,
en plein milieu de
justement, si pour moi, à l'intérieur, c'est la pause, ça sera à l'extérieur. Et je vais... Donc, c'est vraiment un comportement tout à fait inadéquat. Et parfois même, on transfère sur une chose quelque chose d'une autre chose, ou sur une personne quelque chose d'une autre personne. Donc tous les hommes, je les traite comme mon mari. ou je transfère sur un autre homme mon attitude à l'égard. Et je ne sens pas que ça ne se fait pas. Voilà. Parce que si je traite mon mari gentiment, eh ben celui-là,
aussi.
Il a l'air gentil avec moi, donc je vais le traiter gentiment et je vais le traiter comme mon mari. Donc, c'est vraiment, ça touche le temps, ça touche les relations, ça touche les... etc.
Cette personne se rend compte?
Non. Non, non, c'est justement ça. C'est là que je peux sentir que quelque chose ne va pas, ne se fait pas, ne se dit pas. C'est là que je peux, c'est là que je vérifie la réalité, tu vois. Mais la réalité extérieure, et pas que je projette ma réalité interne sur l'extérieur.
Hein? Mais elle se rend compte au moment, enfin, parce que quand elle sort une phrase comme ça, tout le monde est. Je veux dire, elle
voit, mais elle ne comprend pas pourquoi.
Elle ne fait pas le rapport.
Tu vois. Et bon, ça peut être subtil, comme quand je vous disais, je rentre et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça peut être beaucoup plus, quoi. Beaucoup, beaucoup plus. Et je vous disais tout à l'heure, il y a différents systèmes qui sont développés dans un cours de Hugo Tobar qui s'appelle les voies neuro-émotionnelles. Et il y a le système de la peur, le système de la rage. C'est pas juste l'amygdale, c'est tout un système de différents centres nerveux. Et il y a un système qui s'appelle le système de recherche, qui me pousse à rechercher ma nourriture, qui me pousse à rechercher une récompense, un partenaire sexuel, etc., etc. Et ce cortex orbitofrontal, c'est lui qui me pousse à chercher une récompense. Et je ne l'ai pas, s'il est lésé. Donc, j'arrive, je m'attends à ce que vous me souriez ce matin, et c'est la gueule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aucune idée. Ça va? Donc, ça fait partie de ce système de recherche où on s'attend à quelque chose. Ça va? Mais ces gens-là n'ont plus ça. Et donc, s'ils veulent que quelque chose soit la réalité, ça va devenir la réalité. Parce qu'il n'y a pas cette comparaison entre l'intérieur, entre l'extérieur, entre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui se dit, etc. Ça va? Et pour vous donner, c'est non conscient, hein, tout ça. Et pour vous donner un exemple, ils ont fait un test qui s'appelle le test de Wisconsin, où vous avez deux paquets de cartes. Non, vous avez, quatre groupes, quatre paquets de cartes. Il y a deux paquets où quand vous jouez avec ces cartes, vous gagnez beaucoup, mais vous perdez beaucoup. Et à la fin, vous perdez. Et puis il y a deux autres paquets de cartes avec lesquels vous gagnez peu, vous perdez peu, mais à la fin, vous gagnez. Ça va? Donc vous imaginez ça. Toute personne avec le cortex orbitofrontal normal va commencer à jouer avec les quatre paquets et très vite va sentir qu'elle doit jouer avec ceux qui gagnent et perdent peu. Elle le sent. Il y a quelque chose qui va l'amener à non conscient, mais on lui dit rien, hein, elle ne sait pas ça à l'avance, et elle va commencer à ne plus jouer qu'avec ces deux-là. La personne qui a le cortex orbitofrontal lésé, elle n'a plus ce sens que quelque chose ne colle pas, et donc elle va continuer à jouer avec ceux-là, et elle va perdre. Ça va? Et en fait, si on mesure, ils ont fait une expérience, et donc pendant que les gens jouaient, ils ont mesuré la résistance de la peau. Et quand le système nerveux sympathique est actif, hein, quand je suis là, je commence à transpirer et la résistance de la peau augmente. Eh bien, si une personne a un cortex orbitofrontal intact, si elle prend des cartes dans ce qui gagne beaucoup, perd beaucoup, eh bien, ils vont avoir une réaction au niveau de la peau, de résistance augmentée. Le système parasympathique va réagir, style attention au stress, ça va? Et pas là. Eh bien, chez les personnes qui ont le cortex orbitofrontal lésé, il n'y aura pas de réaction sympathique, attention, danger, au niveau de la peau quand elles vont prendre ça. Ça va? Il n'y a pas c'est vraiment le cortex de l'intuition. Je sens quelque chose qui ne va pas. Si je n'ai pas de cortex orbitofrontal, ou pas d'accès au cortex orbitofrontal, mais je n'ai pas de bonne manière, évidemment. Je ne sais pas me comporter en société. Je ne vais pas faire les choses de manière précise. Par exemple, dans le timing, je ne vais pas avoir un comportement qui colle à la situation. Je ne vais pas avoir ce sens de ce qui est correct ou incorrect. Ça va? Ça, c'est le cortex orbitofrontal. Intéressant, hein?
Mais donc, par exemple, quand quelqu'un boit de l'alcool...
Ça peut désinhiber ce cortex-là, mais pas seulement, il y en a d'autres aussi. Mais c'est vrai que c'est ça qui se passe. Je bois, je désinhibe en fait les noyaux, et je désinhibe entre autres l'amygdale. Non, celui-là, il n'y a plus tellement de contrôle. du conscient sur ça et sur ça, et je désinhibe les noyaux limbiques et l'amygdale. Et celui-ci joue un rôle de modulation de l'amygdale. Mais si l'amygdale n'est pas modulée, mais ma rage, mais elle peut tout casser. Et je n'ai pas ce sens qui me dit, et attention, ici, on ne se met pas en colère, quoi, tu vois. C'est pas contrôlé. Et donc, tous les noyaux limbiques émotionnels vont réagir de manière beaucoup plus forte. Et se lâche. Si on le sait, c'est bien. Si on ne le sait pas. Dans les poings, vous avez le 8 estomac, je vais vous l'expliquer, calme, agitation, et le 1 TS, sommeil, insomnie. Mais c'est un petit peu, cette agitation et cette insomnie, c'est un circuit de l'anxiété. C'est, je suis agitée, je sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je ne sais pas quoi. Hein? Alors que si tout va bien, je me sens calme. C'est ça que ça veut dire. L'insomnie, l'apnée de sommeil, c'est je ne dors pas ou je respire mal parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De nouveau, la même chose. Ça va? C'est ça. Donc ici, on ne parle pas nécessairement de lésion du cortex, mais s'il y a du stress, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça agite, ou etc. Ça va?
Mais c'est l'agitation devant le début, je vais le faire.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, je pense à un truc récent pour moi, où j'avais une réunion qui était pas facile avec quelqu'un, et cette personne avait préparé la réunion, moi j'étais arrivée avec le cœur, en me disant, ben, ça va s'arranger et tout. Et je me suis sentie vraiment manipulée dans la réunion par cette personne, quoi. Et en fait, la nuit suivante, j'ai pas dormi, quoi. Mais j'étais agitée parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi, je sentais bien que... Et c'est le lendemain, en revoyant dans la réunion et en discutant avec d'autres personnes qui étaient à cette réunion, qu'on s'est rendu compte qu'on s'est fait baiser, quoi, par l'autre. Tu vois, vraiment, c'est une personne qui ne veut pas prendre ses responsabilités et qui me dit, bah, moi, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, je suis tout à fait OK, c'est toi, etc. Et donc, c'est comme si moi, j'étais responsable de tout, alors que les fautes, c'est chez elle, quoi. Tu vois, et là, tu sens, quand tu sors de la réunion, tu dis oui, tu n'es pas à l'aise, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu n'arrives pas encore à savoir au niveau conscience ce qui ne va pas. Ça, c'est le cortex. Et alors, il crée des insomnies, quoi, parce qu'on se dit, mais il y a quelque chose, et on ne voit pas. Il y a cette agitation intérieure. Ça, c'est par exemple typique du cortex. Ça va? Mais ce n'est pas un cortex lésé. Tout à l'heure, j'ai accentué les choses. Mais ce n'est pas un cortex lésé dans ce cas-ci. Bien, on va quitter le cortex pour retourner maintenant de nouveau dans un noyau qu'on n'a pas encore vu à la page 47. On reviendra au cortex. Hein. Et ce noyau, c'est le thalamus. Oh, il est déjà 10h30.
Il est où celui-là? Il est aussi dans le système limbique.
Il est le thalamus, c'est le diencéphale, c'est pas le système limbique. Le thalamus, rappelez-vous, le thalamus, il est... Je vais vous en trouver un autre. On l'avait bien vu dans les ganglions de la base. Vous vous souvenez, quand on avait vu les ganglions de la base, vous avez dit qu'ils étaient à l'extérieur des deux thalamis.
Oui.
Ça va? Et le thalamus, c'est en haut du troisième ventricule. D'accord? Bien. Le thalamus ne fait absolument pas partie du système limbique. Le thalamus est un ensemble de noyaux dont on a déjà parlé. Je cherche... Voilà. Donc, thalamus égale diencéphale. C'est le rôle principal du thalamus. De la majorité des noyaux du thalamus, c'est de servir de filtre à tout ce qui entre comme information sensorielle. Quand vous êtes en train de m'écouter ici, admettons qu'il y a un chien qui aboie là-dehors, au début, vous allez l'entendre, parce que le thalamus va faire que vous devez l'entendre, pour une question de survie. Mais dès que vous savez, oh, c'est un chien qui aboie, pouf, vous allez couper le thalamus ou son rôle de filtre. Donc le thalamus est un filtre, un relais. Un relais entre les voies sensorielles entrantes vers le cerveau. Et vous voyez, par exemple, que vous avez deux noyaux ici, qu'on appelle les corps genouillés ou les noyaux géniculés, externes et internes, qui vont l'externe vers la vision, l'interne vers l'audition. Vous voyez que vision et audition passent par le thalamus avant d'aller vers le cerveau. Vous avez, si vous regardez ici, le somatosensoriel, et vous voyez que ça passe ici, et ici, je pense. Si vous avez ici toute la partie antérieure, mais vous voyez que c'est ici, pardon, postérieure visuelle, vous voyez que c'est ici. Mais non, antérieure, qu'est-ce que je raconte ? Antérieure, c'est dorsomédian au niveau du thalamus. Etc. Vous voyez ici que le pulvinar du thalamus recouvre toute cette zone-là. Et donc, chaque fois qu'une information entre, elle s'arrête là et pas là. Mais là, on a parlé du thalamus déjà plusieurs fois. On a parlé du thalamus quand ? Le premier jour, avec les ganglions de la base. On a parlé du thalamus et je vous ai dit que vous aviez dans les ganglions de la base, ça partait du cortex, descendait vers les ganglions de la base, faisait son petit tour dans les ganglions de la base, remontait vers ce qu'on appelait le thalamus moteur, et puis vers le cortex. Vous vous souvenez de ça? Le thalamus moteur, il est ici. Ce sont ces deux noyaux-là. Ça va? Donc, ce qui arrive à ces noyaux-là, c'est quoi? C'est les informations des ganglions de la base qui arrivent là, et qui remontent vers l'aire prémotrice et l'aire motrice. Prémotrice, motrice supplémentaire et l'air motrice. Ça va? Noyau moteur du thalamus. Et puis, bon, tout le reste, ce sont des noyaux plus sensoriels. Et puis, on a un noyau du thalamus, un seul noyau qui fait partie du système limbique et qui est un noyau émotionnel, c'est le groupe nucléaire antérieur. Juste ici. Mais donc, vous voyez bien, ça, ce sont des voies blanches. Hein. Ça, c'est des axones. Les noyaux sont... Vous voyez bien, quand vous voyez ça, on vous le dessine, le thalamus, comme une boule, mais c'est un ensemble de noyaux séparés. Et ici, vous voyez bien que le groupe nucléaire antérieur est tout à fait séparé de tout le reste. Ça, c'est des voies. Ce n'est pas des noyaux, ce sont des voies, ça. Ça va?
Et tu as dit qu'il faisait partie de...
Le groupe nucléaire antérieur fait partie du système limbique. Tout le reste fait partie du diencéphale. Ça va? Je vérifie juste... autre chose à vous dire par rapport au thalamus. Donc ici, on ne va parler que du noyau antérieur du thalamus. Et le noyau antérieur du thalamus, ou le groupe nucléaire antérieur, appartient au système limbique et est vraiment lié à tout le circuit de régulation émotionnelle. Il est en lien avec l'amygdale, il est en lien avec l'hippocampe, il est en lien avec le corps mammillaire. Je peux effacer là?
Oui.
Bien, tout à l'heure, vous nous l'aurez peut-être pas.
Et on va sur ce tableau-là.
Oui.
On va sur ce tableau-là. Ah, oui.
Bon. Donc, si vous mettez le noyau antérieur du thalamus ici, donc il y a le thalamus émotionnel, il y a des liens dans les deux sens avec l'hippocampe. Il y a des liens dans les deux sens avec l'amygdale. Il y a un lien avec dans les deux sens aussi, avec les corps mammilaires, c'est l'hypothalamus, hein, ça, l'hypothalamus, et de là, un contrôle sur tout le système nerveux autonome, le système nerveux sympathique, parasympathique. Et donc, le système nerveux, c'est la physiologie de mes émotions dans ce cas-ci, et donc il va intervenir sur comment je me comporte émotionnellement. Et il est lié au gyrus cingulaire antérieur. Et de là, du gyrus cingulaire antérieur, il va vers l'aire prémotrice. Donc ça veut dire qu'il va aussi avoir une implication sur comment je me comporte musculairement, moteur, mon comportement moteur, influencé par mes émotions. Ça va ? Donc il va les émotions vont influencer mon comportement moteur, puisque de là, ça part vers le moteur, etc. Ça va ? Il reçoit aussi des informations du noyau ventral, qu'est-ce que j'ai marqué ? Postérolatéral, du thalamus. Et laissez-moi juste voir que je vous donne l'info. Le ventral postéro-latéral, il est où ? Qui correspond en fait à l'air motrice. Donc c'est l'air motrice du thalamus. Donc il projette, le noyau lui projette vers l'air motrice. Et donc vous voyez qu'il y a vraiment un lien. Enfin, si on doit dire ce noyau antérieur du thalamus fait vraiment le lien entre émotion, parce que lui, il est émotionnel, et comportement moteur. Il reçoit des informations du noyau moteur du thalamus et il renvoie vers l'air prémotrice. Ça va ?
Et dans la vie,
c'est... Non, c'est pas juste, c'est pas l'air... Attendez, laissez-moi voir parce que je dis une bêtise. C'est pas l'air motrice, c'est l'air somatosensorial. Voilà. Je me disais bien, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Somato-sensoriel. Donc, il reçoit des informations sensorielles et il va colorer l'action, le comportement moteur par les émotions. Ça va ? Mais il est en contact avec l'hippocampe, il est en contact avec l'hypothalamus par les corps mammilaires, avec l'amygdale, et par le gyrus cingulaire antérieur, il envoie vers là. Ça va ? Donc vous voyez qu'il est assez central et émotionnel.
On a déjà vu le gyrus cingulaire ?
Non, c'est ce qu'on va voir bientôt. Donc il est comme une station relais. Et un modulateur. Donc il module quelque part par les émotions l'action motrice. Oui.
Mais là, on parlait que du noyau antérieur.
Oui, parce que le reste du thalamus ne fait pas partie du système limbique.
et...
Est-ce
qu'on parle...
Je vais encore juste... Enfin bon, oui.
Est-ce qu'on va parler de... du reste du thalamus à un moment donné?
Pas non, non.
Pas
non.
Ici, quoi.
Non.
Pas dans ce cadre.
Pas du tout, non.
Ok. Merci.
Alors, si vous regardez les points, je vais juste rajouter deux trois points. Si vous regardez les points, le thalamus antérieur, c'est le 16BC au niveau anatomie dans la vie. Et vous avez, dans la physiologie, le 17VG qui projette des informations nerveuses vers les aires motrices précentrales, donc motrices antérieures du cortex, prémotrices. Et donc, quelque part, le 17VG, on pourrait dire qu'il est ici, c'est dans cette voie-ci. Puis vous avez le 20VG, il reçoit des informations en provenance du noyau ventral postéro-latéral du thalamus. Donc le 20VG, vous allez le mettre ici. Puis vous avez le 1-estomac. Le 1-estomac, il met régulation de l'activité émotionnelle. Mais qu'est-ce qui est surtout émotionnel? C'est l'amygdale. Et on peut dire peut-être, il me semble que j'avais mis, point d'interrogation ici, mais peut-être aussi l'aspect émotionnel de l'hippocampe. Et puis, vous avez régulation de l'activité du système nerveux autonome, mais c'est dans cette voie-ci, la voie 24VC. Eric dit, par exemple, que le noyau... Vous savez, quand on a des vapeurs à la ménopause, souvent, c'est déclenché par des émotions. Hein? Eh bien, c'est à ce niveau-là. Les vapeurs, c'est le système nerveux autonome. Les émotions qui le déclenchent, ben, ça vient du noyau. Donc, c'est parfois, on vous dit que le noyau antérieur du thalamus, ce sont les émotions qui ont un impact sur le comportement, mais non conscient, comme par exemple des vapeurs, des choses comme ça. Ça va? Bien. Donc voilà pour le thalamus. Ensuite, laissez-moi juste voir. On passe à l'autre noyau qu'on n'a pas encore vu et puis il n'y aura plus que des cortex, qui est le septum. Alors il faut que je vous montre ce septum où il se trouve. Est-ce qu'on le voit ici? Oui. Voilà. Voilà. Ça fait pas encore. Les cortex, rappelez-vous, c'est ceci. Pour les cortex relais et ceci pour les cortex modulateurs. Le septum, il est ici, vous avez là, on verra le gyrus sous-caleux, sous le corps caleux. Eh bien, le septum est juste derrière le gyrus sous-caleux. Mais ce n'est pas un cortex, c'est un noyau, le septum. C'est la page 63 dans votre bouquin. Il est situé derrière le cortex orbitofrontal, derrière le gyrus sous-caleux et devant la commissure antérieure. Il est lié à l'amygdale, il est lié à l'hypothalamus, il est lié au thalamus antérieur. Vous voyez, l'hypothalamus, il est juste ici, l'amygdale est là, le thalamus antérieur est là, donc c'est toute cette zone, il est lié vraiment à toute cette zone. Et via l'hypothalamus, il descend vers le tronc cérébral et la moelle. Et en fait, dans la littérature aujourd'hui, on parle de l'amygdale étendue. Donc c'est l'amygdale et tout son circuit de gestion émotionnelle, et le septum fait partie de l'amygdale étendue, quelque part. Pour Richard, quand vous regardez les points, c'est vraiment juste un relais, une boîte de jonction. Parce que si vous regardez les points physiologiques, vous voyez, il reçoit des impulsions de l'hippocampe, il projette vers le thalamus antérieur, il projette vers l'hippocampe, et il projette vers le tronc cérébral et la moelle épinière. Ça va? Donc c'est purement relais pour Richard. Mais en fait, si on va stimuler le septum, on peut, en fonction des zones, déclencher deux choses. Soit une rage phénoménale, lien avec l'amygdale, soit orgasme sur orgasme dans une autre zone du septum. Plaisir sur plaisir. Ça va? Donc, vous pouvez le considérer un petit peu comme un noyau d'amygdale étendu. Rage, plaisir. D'accord?
Quand tu dis en le stimulant...
Ah, il y a encore un truc que j'ai à vous dire.
En le stimulant, tu veux dire...
Mais quand, si on met des
des impulsions...
Tu cherches à avoir plaisir sur plaisir. Toi. Non, en fait, si tu...
Par exemple,
si on, le, si on rentre une...
Ah oui, physiquement.
Physiquement, oui. Oui. Une électrode pour aller le stimuler. Maintenant, il y a un truc aussi au niveau comportement qui est sympa avec le septum. Vous avez, quand les gens ont un septum lésé ou pas assez développé, ce sont des gens collants. Vous voyez ces gens qui sont là. Vous êtes en train de discuter, je suis en train de discuter un truc privé avec Françoise. Quoi ? Eh bien, par exemple, elle serait là et elle ne sent pas qu'elle ne doit pas être là, mais elle va rester, quoi, et peut-être participer. Alors que moi, je m'adresse vraiment à Françoise et non, la personne est là, quoi. Ça c'est... Ce truc-là, ça, c'est le septum, quoi. Et comme aussi les gens qui n'ont pas de limites, comme ça, qui ne sentent pas les limites, c'est le septum. Le septum, en fait, je vous disais tout à l'heure que c'est l'amygdale étendue, mais si l'amygdale ne contrôle pas le septum, la rage est beaucoup plus violente ou le plaisir beaucoup plus violent. Donc l'amygdale, quelque part, module, joue un rôle de modulation du septum. Ça va? Donc j'avais ici, vous rajoutez dans les noyaux, vous avez aussi le septum. Et vous avez aussi le thalamus antérieur. Mais le septum, on peut dire que ça fait partie de l'amygdale étendue.
Mais là bon, c'est vraiment tous les noyaux corticolimbiques, hein, qu'on aura vus, quoi.
Mais amygdale et septum vont ensemble. Et il y a des liens entre tous ces trucs, hein, vous l'avez vu là. Vous pouvez, sur ce schéma, par exemple, rajouter un lien vers le septum, un lien vers du septum vers l'hippocampe, vers le thalamus antérieur. Tous ces trucs sont liés, quoi. Les ganglions de la base, c'est quelque chose à part, puisque c'est moteur, mais tout le reste, c'est vraiment émotionnel. Ça va? Ok, voilà pour le septum. Et il y a vraiment entre septum et amygdale ce lien de l'un régule l'autre qui régule l'un, quoi. Ça va? Si l'un ou l'autre est lésé.
D'après ce que tu dis, on dirait que le septum est encore plus profond.
Le septum, il est un peu plus haut que l'amygdale. Hein? L'amygdale est là, il est juste au-dessus. Pardon, l'amygdale, oui, l'amygdale est là, il est juste au-dessus. Quoi ça, genre? Bizarre. Ah bon, il est juste au-dessus, mais on parle vraiment de l'amygdale étendue. Les deux doivent fonctionner correctement pour que je gère correctement mes émotions. Ça va? Bien. On revient dans. Désolée d'avoir refait avec thalamus et septum ce petit tour dans les noyaux. On revient maintenant dans les cortex. Et je vais maintenant, on a vu le parahippocampique, je vais mettre un V, hein, comme ça. Celui-là, on l'a vu, lié à la mémoire, à l'hippocampe. On a vu le cortex orbitofrontal. Je vais maintenant voir l'incus. Et l'incus, incus, ça veut dire quoi? Ah ben voilà, c'est lui-là. Ça veut dire quoi? Ben oui, c'est ça, il n'est pas mis là-dessus, sur ce schéma. C'est lui là, ici le petit bout là. C'est lui, l'incus. Il est là. Et pourquoi incus? Incus, c'est un coin. Et il est au bout, au coin. Il est dans le coin. L'incus. J'ai pas grande chose à vous dire. C'est la partie la plus antérieure donc, du gyrus para-hippocampique. C'est une boîte de jonction. Et c'est une boîte de jonction qui reçoit les informations du bulbe olfactif. Vous vous souvenez, le bulbe olfactif part comme ça et vient ici. Vous vous souvenez de ça, vous voulez que je vous remonte? Ça va? Et donc, vraiment, le bulbe olfactif arrive là. Il reçoit toutes ces infos du bulbe olfactif. Et ensuite, de là, il projette vers le cortex pour qu'on prenne conscience des odeurs. Donc, c'est le noyau qui reçoit les informations du système limbique. Mais je vous rappelle que le bulbe olfactif, c'est une prolongation du système limbique. Hein? Et donc, il reçoit, pouf, et transmet la conscience des odeurs au niveau cérébral. Et si vous voyez, par exemple, les chiens qui suivent les odeurs à la trace, donc l'incus joue un rôle parce qu'ils ont conscience qu'il y a une odeur, et donc maintenant ils vont la chercher. Et chez les hommes, ça se passe aussi de manière peut-être moins... avec les phéromones, quoi. On est attiré vers. Et puis, on prend conscience qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'odeur. Vous savez combien les odeurs sont importantes dans les relations humaines, vous ne le savez pas. Vous savez qu'on choisit le bon partenaire, non pas du tout parce qu'il y a parce qu'on l'aime ou n'importe quoi, non, pas du tout. C'est pour la procréation génétique. On est attiré par un partenaire avec lequel on va faire des enfants solides. Sauf si on prend la pilule, parce que ça modifie les choses. À ce moment-là, les odeurs corporelles qui attirent alors la femme sont les mauvaises du point de vue génétique.
Comment ?
Si je prends la pilule, mon odeur change, mais mon système hormonal change. Alors, l'homme qui va être attiré par moi va être attiré par mon odeur sous pilule, et moi sous pilule, je vais être attiré par un homme
qui ne te convient,
qui ne me convient pas.
Voilà.
Au niveau... Non, mais ça, c'est... Bien sûr, si on parle vraiment au niveau animal, quoi. Bien. Donc, et tout ça, c'est l'incus. Donc, vous voyez dans les points, l'incus reçoit les impulsions en provenance de l'astrie olfactive et envoie vers le cortex, reçoit du cortex. Ça va? Donc, le système olfactif envoie, de là, il projette et il reçoit. C'est vraiment très simple, c'est lié au nez. L'incus égale nez. Bien, vous avez ensuite, je ne vous l'ai pas mise au tableau, celle-là, l'air para-olfactif qui est juste à côté. Où est-ce qu'il est lui? Je vais vous trouver sur l'autre. Mais vous savez sur quoi je tombe?
Non.
Sur les ailes de Rodman.
Donc ça, je vais vous montrer quand même. Je suis cherchée partout.
Voilà les ailes de Rodman. Vous voyez? C'est beau. Bon. Mais donc, je cherche quoi, là? Ici. C'est lui? Oui, voilà, ici, je l'ai. L'air para-olfactive. Donc... Le septum est là, le bulbe olfactif est là, l'incus est ici. Donc vous voyez, du bulbe olfactif, vous avez quelque chose qui arrive vers l'incus, vous le voyez là.
Oui.
Et puis vous avez au-dessus, là, vous avez le gyrus sous-caleux juste en dessous et juste en avant du gyrus orbitofrontal, vous avez une zone qu'on appelle l'air para-olfactive. Et vous voyez que vous avez aussi... du bulbe olfactif, quelque chose qui des voies qui montent vers ici. Ça va? Donc c'est de cette zone-là qu'il s'agit. Et elle traite l'information de l'odorat aussi. Elle permet de distinguer les qualités des odeurs, les différents types d'odeurs. Et c'est aussi une zone qui peut interférer dans le fait qu'on est hyper ou hyposensible aux odeurs. Les gens qui ne sentent pas bien, c'est la page 72. Les gens qui ne sentent pas ou qui sont mal à l'aise avec certaines odeurs, etc.
Quelle page ?
72. Donc c'est là que sont traités les stimuli olfactifs et c'est là qu'on réalise que tiens, c'est telle odeur ou telle odeur. Et vous avez tous ces points-là, vous voyez, le 1 de foie, il a mis goût doux, c'est dans le sens d'une odeur douce, douceâtre. 17 WC épicé, 14 WC fleuri, 13 WC fruité, 1 poumon résineux, 25 WB putride, 14 foie brûlé. Donc c'est toutes des qualités d'odeur. Maintenant, vous avez un autre point qui est le 27 de rein. Et il est marqué vision odorat contralatéral. C'est l'intégration entre, et je vous explique ça, l'odorat, mon nez droit, mon bulbe olfactif droit, il va dans le cerveau à droite. Mon nez gauche, il va dans le cerveau à gauche. Ça, c'est une chose. Mon œil droit croise vers la gauche. Mon œil gauche croise vers la droite. Donc les yeux croisent, l'odorat ne croise pas. Et au niveau survie, si je sens quelque chose à droite, je dois tourner mon regard à droite et pas à gauche. Ça va ? Et donc il faut qu'il y ait une intégration entre ces deux données, c'est ce point-là.
Donc si je sens à droite,
je dois aller voir à droite, mais qu'est-ce qui arrive ? Si je sens une odeur de lion à droite, je dois pouvoir voir qu'il y a un lion à droite et pas à gauche. Et comme la vision croise et le nez ne croise pas, je dois avoir un système qui intègre les deux. De repérer dans le bon côté où se trouve l'odeur. De repérer par les yeux où se trouve l'odeur. C'est ce point-là. Ça va ?
Oui. Bien. Est-ce qu'on a vu des points de l'insulte ?
De l'incus, il me semble que oui. Ils reçoivent les infos, ils reçoivent les infos.
Des points comme ça.
Oui, c'est à la page. Je les ai juste dit rapidement. 3 VG, etc. Un reçoit les infos du bulbe olfactif.
C'est quel point ?
Page 66.
Merci.
Donc il reçoit les infos, il les envoie au cortex et il en reçoit du cortex. C'est tout, c'est une boîte relais, quoi. Oui.
C'est une question par rapport aux cinq sens. Alors, le nez, le sol, tu ne croises pas l'oreille ?
Oui, tous les autres se croisent.
C'est vraiment une question de survie, de rapidité, ça.
Mais tout le système limbique est une question de survie. C'est clair, si je sens l'odeur du nez ou que je ne regarde pas là alors qu'il est là, je suis morte, quoi.
Mes oreilles croisent aussi.
Tout croise. Mais tout croise en pourcentage, par exemple la vision, tu as 85% qui croise, 15% par exemple qui ne croise pas, mais en gros ça croise, sauf le nez. Quelle heure il est ? Il me reste le gyrus singulaire et le gyrus sous-caneux. Vous voulez faire une pause ou vous voulez d'abord que je les fasse ? À vous de décider.
Pause.
On fait une pause ?
Ok.